Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Putsch manqué à Bissau, la CDAO va envoyer une force de stabilisation. Ouverture demain du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, sur fond de guerre en Éthiopie et beaucoup de coups d'État sur le continent. En RDC, l'armée annonce avoir tué 33 rebelles au sud Kivu. Les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin ont été ouverts par le président chinois en présence de Vladimir Poutine. Mais tout de suite, comme chaque jour, nous ouvrons avec le journal de la Cannes, présenté par Emmanuel Jultap. C'est ce week-end que la Coupe d'Afrique des Nations de football s'achève au Cameroun. Deux derniers matchs restent à livrer. Demain, match pour la troisième place et dimanche, c'est la finale pour le sacre continental. Face à face, le Sénégal et l'Égypte. Le journal de la CAN à Yaoundé avec Emmanuel Juntap. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir. Les joueurs camerounais sont revenus à l'entraînement ce vendredi, au lendemain de leur élimination en demi-finale par l'Égypte lors de la séance des tirs au but. Le Cameroun prépare déjà la petite finale, le match pour la troisième place contre le Burkina Faso. Les étalons ont eu également leur dernière séance d'entraînement d'avant-match ce soir et ont cet avantage d'avoir eu plus de temps de récupération par rapport au Cameroun. Anthony Conseil-Sao, l'entraîneur des Lions indomptables, parle du match de demain.
Je crois qu'il faudra à la fois une troisième et une quatrième place. Mais le Burkina Faso, qui est là, qui n'a pas pu se qualifier pour la finale, donc il est très difficile en ce moment de remonter le moral des joueurs. Vous savez, on a 24 à 48 heures pour que l'équipe récupère. Mais sur le point, le plan émotionnel, après un jeu où on a été éliminé au tir au but. C'est très difficile de remonter le moral de nos joueurs. Mais nous ferons tout pour pouvoir avoir une bonne prestation et peut-être, pourquoi pas, la troisième place. Nous ferons les efforts pour cela.
Le Burkina nourrit également des ambitions pour le match de la troisième place. C'est une médaille d'argent qui tient même à cœur au sélectionneur national. Kamou Malo est au micro de Kader Traoré Mamadou.
Et nous, on va baisser les bras de Sidou, parce que quand même, il y a une médaille à aller chercher. Et nous allons nous remobiliser simplement pour y aller. Alors, je pense que la Coupe d'Afrique, en tout cas, a montré que quand même, le football sur le continent est en net progrès. Et c'est ce qu'il faut continuer de faire. Et simplement, la fête, en tout cas, jusqu'à pour le contraire, elle est belle au Cameroun. Alors, je souhaite simplement qu'elle se termine sur une très belle note, surtout sur le plan sportif.
Merci, coach. Nous allons passer au jeu des questions-réponses. Christian ? Oui, là-bas.
Dimanche, au stade d'Olembe, le Sénégal et l'Égypte disputent la finale. L'entraîneur adjoint de l'équipe nationale d'Égypte, Dia Hal Saed, a même souhaité que cette finale se déroule plutôt lundi pour permettre au pharaon de récupérer. Nous l'écoutons.
Notre équipe est la seule qui a joué trois fois pendant 120 minutes et nous avons l'engagement de jouer. Nous avons aussi une préparation physique très bien. Nous avons un bon entraîneur. Les joueurs qui sont, mais nous avons une étape à franchir. Nous n'avons pas. Bien sûr, nous avons une fierté d'aujourd'hui, mais il y a une étape à franchir. Je veux dire aux gens, aux responsables de la CAF, qu'il y a une journée additionnelle pour le Sénégal. Moi, je souhaite que comme il y a eu le troisième et le quatrième qui ont eu un peu derrière, justement de temps, qu'il y ait aussi lundi ou mardi. C'est ce que je demande, la finale.
Le Sénégal est à la recherche de son premier titre continental, finaliste pour la seconde fois consécutive. La première nation africaine au classement FIFA veut remporter le trophée et peut compter sur des supporters sénégalais dimanche. un certain nombre a fait le déplacement de Yaoundé. Issa Lay Diop est leur président.
Nous, supporters, nous sommes enthousiasmés. Nous ne sommes pas euphoriques, nous sommes très sereins. Mais nous savons aussi défendre un statut qui est la meilleure équipe africaine. Et nous entamons et nous préparons pour une très forte mobilisation en compagnie du 10e gouverneur local qui a déclenché cette forme de mobilisation depuis quelques jours. Je pense que nous sommes en train de réunir pour prendre les dispositions idoines afin que tous les supporters, non seulement se rallient très tôt au stade, mais poussent les Lyons là vers la victoire.
On peut en avoir combien de supporters sénégalais au stade?
Bon, écoutez, je pense qu'à défaut d'avoir les moyens de notre politique, nous allons appliquer la plus de nos moyens. Nous sommes en train de nous mobiliser et de mobiliser des fonds, mais nous comptons mobiliser exactement entre 1500 et 2000 Sénégalais qui sont là, parce que le Cameroun compte la plus forte colonie sénégalaise en Afrique. Donc là, je pense qu'il est important que les gens sachent que pour ce match-là, les Lyons ne seront pas divisés et ne seront pas seuls.
Quel sera le monde?
La gagne, rien que la gagne. La gagne, parce que je pense qu'une chance, ça se joue pas, ça se gagne. Mais il faut savoir respecter l'adversaire, le prendre très au sérieux, parce que l'Égypte, c'est pas un petit morceau. Mais aussi, nous avons nos atouts, et nous allons compter sur nous d'abord. Mais nous allons aussi maximiser nos chances. Parce qu'une chance, il faut la provoquer. Il faut se surpasser, mais il faut se donner à fond et montrer que nous avons besoin de ce trophée.
Issa Lay Diop, président des supporters sénégalais, au micro d'Amédine. Le journal de la CAN s'achève à Medinsi. Kadé Traoré Mamadou, Emmanuel Junta, VOA.
À présent, la suite du journal. La CEDEAO a annoncé l'envoi d'une force d'appui pour stabiliser la Guinée-Bissau. Le président Oumaro Sissoko Embalo, au pouvoir depuis 2020, a échappé cette semaine à une tentative de coup d'État qui a fait 11 morts. Nous faisons le point avec Eric Manirakiza.
Le communiqué de la CEDEAO, publié hier soir à l'issue d'un sommet de ses dirigeants à Accra, ne précise pas la date de déploiement de cette force ni sa composition. Mardi, le palais du gouvernement sur la route de l'aéroport a été attaqué par des hommes armés pendant que M. Embalo y tenait un conseil des ministres extraordinaire. Cet acte a été commis par un groupe de bandits qui voulaient prendre le pouvoir sous les ordres d'un autre groupe commun, a dit jeudi à la presse M. Embalo. La CEDEAO avait déployé une force en Guinée-Bissau après le coup d'État d'avril 2012 qui avait renversé le Premier ministre Carlos Gomez Junior entre les deux tours de la présidentielle. Cette force était chargée de protéger les chefs des institutions et les édifices publics, formée de plus de 1000 soldats, gendarmes et policiers. Elle a quitté le pays en septembre 2020 à la fin de son mandat.
Le Ghana, le Kenya et le Gabon, trois membres africains non permanents du Conseil de sécurité, ont demandé une réunion à huis clos de cette instance mardi sur le coup d'État survenu le 24 janvier au Burkina Faso, a-t-on appris aujourd'hui de sources diplomatiques. Le Ghana, qui exerce la présidence tournante de la CEDEAO, pourrait à l'occasion de cette session proposer l'adoption d'une déclaration commune du Conseil condamnant le coup d'État selon les mêmes sources. La tenue de cette session doit encore être confirmée par la Russie, présidente en exercice du Conseil de sécurité en février et qui contrôle son programme de travail. Les délégations d'Afrique affluent à Addis Abeba depuis une semaine pour le sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tient ce week-end au siège de l'organisation en Éthiopie. Nathalie Barge.
Avec plusieurs coups d'État sur le continent, le calendrier chargé de l'Union africaine pourrait détourner l'attention des problèmes du pays hôte, embourbé dans un conflit avec les rebelles tigréens depuis 15 mois. Dans un discours mercredi au ministre des Affaires étrangères, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a déclaré que les coups d'État sont des sources d'instabilité sociopolitique préjudiciables à tous les efforts de développement. L'organisation a suspendu le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Soudan, mais pas le Tchad, où Mahamat Déby dirige un conseil militaire depuis la mort de son père, le président Idriss Déby, en avril 2021. Samedi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa fera un point sur la réponse africaine à la pandémie. Seulement 11% des Africains sont entièrement vaccinés, loin de l'objectif fixé de 70% d'ici la fin de l'année. À l'ordre du jour également, une discussion sur la décision l'an dernier de M. Faki d'accepter l'accréditation d'Israël en tant qu'observateur. Décision qui a suscité de vives protestations de l'Afrique du Sud et l'Algérie. Devant l'aéroport d'Addis Abeba, l'on peut lire sur des panneaux récemment installés des solutions africaines aux problèmes africains ou l'avenir de Mère Afrique est radieux.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée dit avoir tué une trentaine de personnes dans une offensive contre des milices locales alliées à des rebelles burundais au sud Kivu. Les précisions de John Hinden.
Cette opération a été menée de mercredi à jeudi contre les groupes Mai Mai alliés aux rebelles des Forces nationales de libération du Burundi et le raid Tabara burundais dans le groupement Katonera, indique le lieutenant Marc Elonga Kiondwa, porte-parole de l'armée dans la région. Le bilan fait état des 33 miliciens tués, dont 3 leaders, indique le communiqué. Les opérations de ratissage continuent et selon ce porte-parole, les forces armées congolaises contrôlent la situation. Les groupes rebelles burundais FNL et Red Tabara ont leur base arrière dans l'est de la RDC, une région déstabilisée depuis plus de 25 ans par la présence des dizaines de groupes armés locaux et étrangers. L'armée congolaise accuse régulièrement les rebelles burundais de s'allier avec des milices locales et de faire régner l'insécurité dans les territoires d'Uvira, Vizi et Mwenga dans la province du Sud Kivu.
Toujours en République démocratique du Congo, le volcan Nyiragongo projette depuis ce matin de la cendre toxique sur la ville de Goma, a indiqué l'observatoire volcanologique du chef-lieu du Nord Kivu. Cette chute de cendres est due aux effondrements sporadiques des restes des plateformes de l'éruption du 22 mai 2021. La coulée de lave avait atteint les faubourgs de Goma et avait causé la mort de 32 personnes. Au Nigeria, l'incendie qui s'est déclaré mercredi matin sur un navire pétrolier au large des côtes a été éteint, a indiqué l'agence gouvernementale en charge de répondre aux fuites de pétrole. Cet incendie faisait craindre un éventuel désastre écologique. Ce matin, la ministre nigériane de l'Environnement, Sharon Ikeazor, a qualifié sur Twitter l'événement d'inquiétant et déclaré que des compagnies pétrolières intervenaient sur les lieux pour protéger l'écosystème vulnérable. Également au Nigeria, un accident de la route a fait 18 morts dans l'état de Yobe quand un bus a percuté une voiture de plein fouet. L'année dernière, le Nigeria a enregistré près de 10 700 accidents de la route qui ont fait plus de 5 100 morts. Au Maroc, les secouristes s'activent pour tenter d'extraire vivant le petit Ryan, un enfant de 5 ans tombé dans un puits profond d'un village il y a 4 jours. Les équipes de secours procèdent aux derniers travaux de forage vertical pour atteindre le fond du puits qui ne fait que 45 cm de diamètre. Un tunnel horizontal de 3 mètres devrait permettre de ramener l'enfant tout en évitant de mettre en danger les secouristes. Par ailleurs, le ministère des Affaires islamiques du royaume chérifien a annoncé que des prières seront prononcées ce vendredi dans toutes les mosquées du pays, dans l'espoir de faire tomber la pluie dans ce pays frappé par la sécheresse, sur ordre du roi Mohamed VI.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2022 de Pékin aujourd'hui. La capitale chinoise entre dans l'histoire olympique en devenant la première ville à avoir organisé les Jeux d'été et d'hiver dans un contexte lourd entre Covid, tensions diplomatiques et polémiques. Jacques Aristide.
Des feux l'artifice tiré au stade national de Pékin lors du coup d'envoi de ses 24e Jeux d'hiver. Comme il y a 14 ans, le spectacle a été conçu par le réalisateur chinois Zhang Yimou. Une célébration suivie du défilé des 91 délégations avant l'ouverture officielle effectuée par le président chinois Xi Jinping. Parmi les spectateurs de la cérémonie d'ouverture, boycottée par plusieurs pays occidentaux, États-Unis en tête, afin de dénoncer des violations des droits humains en Chine, une vingtaine de dirigeants mondiaux, dont le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et Vladimir Poutine. Le président russe a auparavant rencontré Xi Jinping, son ami, dit-il, pour un sommet où les deux dirigeants ont fustigé à l'unisson l'influence américaine, qualifiée de négative pour la paix. Ils ont dénoncé le rôle des alliances militaires occidentales en Europe, comme en Asie, les jugeant déstabilisatrices. Le Kremlin est accusé par les Occidentaux de vouloir déclencher une invasion de l'Ukraine, ce que dément la Russie. Pour cause de pandémie de Covid-19, les sportifs sont confinés dans une bulle sanitaire et soumis à des dépistages quotidiens. Les JO 2022 de Pékin vont durer 2 semaines.
Le président français Emmanuel Macron rencontrera Vladimir Poutine lundi à Moscou, puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi à Kiev pour parvenir à une désescalade dans la crise ukrainienne. Monsieur Macron a multiplié ces derniers jours des entretiens téléphoniques avec ses homologues russes et ukrainiens, ainsi qu'avec le président américain Joe Biden, afin de jouer les médiateurs dans cette crise. Par ailleurs, la Chine et la Russie ont publié aujourd'hui une déclaration commune pour dénoncer l'influence américaine et le rôle des alliances militaires occidentales, l'OTAN et AUKUS, en Europe comme en Asie, les jugeant déstabilisatrices. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rend la semaine prochaine dans le Pacifique pour une réunion à Melbourne du Quad, l'alliance des États-Unis avec l'Australie, l'Inde et le Japon, vouée notamment à contrer la Chine, a annoncé le Département d'État. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. La CEDEAO s'est réunie hier à Accra pour évaluer la situation au Burkina après le coup de force du 24 janvier. L'institution sous-régionale n'a pas pris de sanctions contre le pays, mais demande un chronogramme clair pour aller aux élections. Les réactions à Ouagadougou avec notre correspondant Lamine Traoré.
La CEDEAO n'a pas infligé de nouvelles sanctions au Burkina. 7 chefs d'État ouest africains ont pris cette décision hier à Accra, au Ghana. La CEDEAO a appelé les militaires au pouvoir à Ouagadougou à mettre en place immédiatement l'autorité de la transition, à adopter un calendrier de transition et favoriser le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai convenu et raisonnable. Les réactions des Burkinabés.
C'est une bonne chose à la mesure où la CEDEAO est d'abord, avant tout, la CEDEAO du peuple. C'est le peuple qui a élu ces dirigeants qui sont allés les représenter là-bas, qui parlent au nom de la population. Donc nous pensons que c'est tout à fait légitime de ne pas sanctionner le Burkina et de ne pas sanctionner les différents pays parce que nous trouvons que c'est légitime et la plupart des différents pays et la population se sont levés pour exprimer leur rang de bol par rapport à un certain nombre de choses qui sont tout à fait légitimes.
Ils n'ont pas sanctionné le Burkina Faso, non, rend grâce à Dieu. Mais maintenant, nous voudrons savoir à quelle position est la CEDEAO aujourd'hui. Puisqu'ils sont contre l'Afrique ou bien ils sont pour l'Afrique. Parce que normalement, les sanctions du Mali, nous ne comprenons pas pourquoi ils ont sanctionné le Mali. Par rapport au Mali, s'ils ont pu ne pas sanctionner le Burkina, ils devaient faire la même chose avec le Mali. Puisque nous formons, nous sommes de l'Afrique de l'Ouest. On devait avoir les mêmes jugements par rapport à l'Afrique de l'Ouest.
Pour le moment, bon, c'est un bon pas qu'ils ont pris. Bon, on est content. Bon, maintenant, on attend de voir parce que le problème n'est pas, bon, ce n'est pas le début d'abord. Ils vont vouloir imposer des trucs où, bon, qui va aller à l'encontre de, voilà, c'est que, bon, de la population. En fait, c'est ce qui va, bon, c'est ce qu'on attend de voir. C'est le président qui se soucie de... En fait, ils plaident pour leur cause, c'est ça. Ils ne veulent pas de la vérité. Ils font des trucs bon, juste pour se protéger.
Les décisions de ce sommet ne sont pas surprenantes. Paz y est juriste et analyste politique.
Si on tient compte de ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence de la CEDEAO, c'est le process normal. Dès qu'il y a un coup d'État dans un pays, la première chose qu'ils font habituellement, c'est de suspendre. Par la suite, ils vont engager des pourparlers avec les différents acteurs. Et maintenant, si... les acteurs, les autorités de la transition traînent les pas. Certainement, c'est à ce moment que de nouvelles sanctions seront prises à l'encontre du Burkina Faso.
La CEDEAO va continuer d'avoir un regard sur l'évolution de la situation au Burkina. Les chefs d'État ont donné des instructions à la commission de la CEDEAO de veiller à maintenir le contact avec la junte au pouvoir à travers la mise en place de mécanismes de suivi auxquels seront associés la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies dans le but de soutenir la transition. Selon le communiqué final, Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Le Burkina Faso a échappé hier jeudi à de nouvelles sanctions de la CEDEAO. Les chefs d'État ouest-africains demandent aux militaires l'élaboration rapide d'un calendrier raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO a en revanche décidé de maintenir ses sanctions contre le Mali et la Guinée, où des militaires ont également pris le pouvoir par la force. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Dakar, l'analyste politique Ibrahima Kan.
Il ne s'agit pas en fait d'indulgence. C'est la tradition, mais c'est aussi ce que les règles prévoient. Dans le cadre de l'acte additionnel qui a été adopté en 2012 sur les sanctions à prendre contre les États, il y a tout un régime de sanctions au niveau de la CEDEAO. La première sanction quand il y a coup d'État, c'est une sanction de principe, c'est la suspension de l'État, de toutes les institutions de la CEDEAO. Et ensuite s'engagent maintenant les négociations avec les responsables de l'État. Et si la CEDEAO et les responsables de l'État arrivent à une solution sur la transition, on se limite à ces sanctions jusqu'à ce que les règles soient respectées par ceux qui ont opéré le changement anticonstitutionnel de gouvernement et une fois que ces règles sont appliquées, on les lève. Mais s'il n'y a pas d'application des règles concernant la transition, là, il y a un deuxième régime qui s'applique qui est celui des sanctions ciblées. C'est quand toutes ces mesures-là auront été inefficaces que maintenant les sanctions économiques arrivent. Donc ce qui se passe actuellement avec le Burkina Faso, c'est dans l'ordre naturel des choses.
Donc la junte à Ouagadougou ne jouit d'un privilège quelconque de la CEDEAO?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, si vous avez bien lu le document, il dit que bon, les sanctions de principe ont été adoptées et les négociations avec les autorités qui ont pris le pouvoir, ils ont rencontré plusieurs de ces dirigeants-là, que ces négociations-là vont dans la bonne direction. Par exemple, les militaires ont pris une décision qui paraît aller dans la direction de ce que veut la CEDEAO, ils ont rétabli la Constitution. Alors, le rétablissement de la Constitution veut-il dire qu'ils vont respecter les règles que la CEDEAO a pour que même les dirigeants de la transition ne soient pas des militaires? Ça, c'est les négociations à venir qui vont nous dire si cela est vrai ou pas. Parce que si ces mesures sont adoptées, si par exemple le président de la transition n'est pas militaire, les responsables du Parlement de la transition ne sont pas militaires, on peut valablement lever les sanctions en attendant l'organisation d'élections pour retourner dans un ordre constitutionnel normal.
La CEDEAO, fragilisée par les coups d'État à trois pays, le Burkina, la Guinée, le Mali, il y a eu une tentative en Guinée-Bissau. Comment vous voyez l'avenir de l'organisation et la légitimité des sanctions que l'organisation est en train de prendre vis-à-vis de ces pays-là?
C'est vrai que quand on regarde l'actualité de la sous-région, on a déjà trois trois coups d'État en moins de 5 mois et un quatrième a échoué le week-end dernier, amenant un peu le nombre de coups d'État dans la sous-région depuis 1963 à 60 coups d'État. Mais à y regarder de près, on peut dire que cette multiplication des coups d'État n'a aucun impact sur la viabilité de la CEDEAO en tant qu'institution et autres, et que si on observe par exemple le cas du Mali, les sanctions que la CEDEAO a pu poser ont vraiment poussé les militaires à regarder de plus près. Et aujourd'hui, je sais que là, c'est même maintenant de notoriété publique, que les militaires reviennent à de meilleurs sentiments et que l'on s'achemine même vers une transition de 2 ans. Donc, c'est vous dire que malgré tout ce qu'on a dit de la CEDEAO, de ses difficultés, le système qu'il a mis en place semble en tout cas montrer un certain nombre d'effets.
C'était Ibrahima Kane, analyste politique joint à Dakar au Sénégal. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. En Côte d'Ivoire, la semoule de manioc, appelée communément garba, dérivée de la tchéké, est tellement prisée par les Ivoiriens qu'il fait maintenant partie des habitudes alimentaires. Pourquoi l'appellation garba et qui sont les consommateurs favoris? Le coût relativement moins cher pourrait expliquer sa popularité. Un reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Bouze.
Le garba a fait son apparition dans les années 90 en Côte d'Ivoire. Il est maintenant vendu aux abords des cités universitaires et des écoles et dans les quartiers populaires d'Abidjan. Accessible à toutes les bourses, le garba a conquis une place de choix dans la gastronomie ivoirienne. Enfants, jeunes et adultes en consomment sans aucune modération. Cette dérivée du traditionnel attiéké poisson agrémenté de thon grillé et assorti d'autres ingrédients pour devenir une spécialité ivoirienne. Toutefois, l'origine de ce mets reste floue. Le nom garba pourrait tirer son origine du patronyme du premier Nigérien à réaliser un plat peu cher et accessible à tous. La grande commune de Yopougon est mondialement connue pour ses célèbres makis. Première escale, le quartier Maroc au Carrefour Oasis, l'enseigne dit Garba Show chez Ousmane. Ce garba drum, si j'ose l'appeler ainsi, se trouve aux abords de la route. Facile d'accès et à presque minuit heure d'Abidjan, il ne désemplit jamais. Il est juste collé à un ferronnier avec tous ses ronronnements et autres bruits d'appareils. Cela ne semble gêner ni les clients ni le propriétaire. Ousmane Diko commence son travail à 7h du matin. On retrouve tous les âges parmi sa clientèle.
Je suis un gamin Raphaël, je suis dans la quarantaine. C'est le meilleur plat, ça. Ça va dire que on ne peut pas vivre à Abidjan. C'est moins cher.
Garba 100 francs et tout, 63 francs.
C'est bien à ta vie, avec 400 francs d'avoir.
Du garba bien épicé, renchéri d'autres clients. À quelques encablures, il y a un autre restaurant concurrence oblige. Il se nomme Garba Choco, du pain fait jeté à la Sorbonne. Ses potentiels clients sont les élèves.
Garba, c'est la musique la moins chère à
Abidjan. Non loin de là, dans un autre lieu appelé Garba Ivoire de Yannick Kofi, la même affluence. Qu'en est-il de l'hygiène, surtout en ces temps de Covid? Vide à vie des clients.
C'est bien, le coin est vraiment bien aéré.
C'est là, mes profs. Je suis venu chez mon appétit, ça va, avec votre radio. Ça me fait vraiment plaisir.
Comme l'origine du garba n'est pas connue, ce n'est pas une marque déposée avec droit d'auteur. Chacun y va avec sa nouvelle appellation. Zégen, Guéro ou même béton.
Zégen, ça veut dire garba. C'est comme du béton, hein. C'est stratégique pour ça. Moi, c'est bamba.
Manger rapide, facile et peu cher a déjà fait des milliards comme MC Donald, Burger King ou KFC aux États-Unis. Le garba en Côte d'Ivoire part de là. Remplir le ventre, est-ce qu'il remplit les poches? Ousmane Diko de Garba Show, Prince TG de Garba Choco, Yannick Kofi de Garba Ivoire répondent tous en cœur avec les souris aux lèvres.
Monsieur, bon appétit. Monsieur, bonjour, bon appétit. Bonjour, bon appétit. Merci de
voilà. Bon appétit, sacré garba ivoirien. Delphine Bouis, Abidjan, VOA, Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet.
voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno de l'équipe de production qui ont permis la réalisation de ce journal. Au micro, Clermont Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.